Après l'effet moutarde qui monte au nez de dimanche dernier, je vous propose quelques paroles de Jésus à l'effet café serré. Ristretto, comme on dit en Italie. Vous savez, un café à réveiller les morts. Amer, puissant, sans sucre évidemment. Alors pour ceux qui sont thé, je suis désolé. Vous devrez attendre un autre sermon sur un thé. Je vais être très café, quoi, ce matin. Dans cette série de rencontres et d'entretiens, Jésus, le bon pasteur, fait à peu près tout le contraire de ce qu'on m'a appris à la faculté dans les bons cours de théologie pratique et pastorale. Tout. Une foule se presse pour voir Jésus. Il l'abandonne. Et nous, on se creuse la cervelle pour savoir comment attirer les foules. Et lui, au lieu de faire une méga church, il les plante là et va son chemin, je ne sais où, sur l'autre rive. Et puis un homme s'approche pour se convertir. Il veut suivre Jésus. Et Jésus le remballe. Aujourd'hui, les gens intéressés par l'Évangile, désireux de rejoindre une église, ça ne court pas les rues. On pourrait quand même un peu les saluer, les accompagner, leur sourire. Vous imaginez votre réaction si une personne me demandait un rendez-vous à la sortie du culte, exprimant son désir de croire en Dieu, de s'engager dans une église, et que je lui réponde que l'Évangile, le vrai, n'a rien à voir avec sa demande et qu'il revienne quand il sera vraiment prêt. Et que quelqu'un encore vienne me dire qu'il ne sera pas présent au culte dimanche prochain suite au décès de son père et que je lui réponde qu'il y a des choses plus importantes dans la vie qu'un service funèbre et qu'il serait bien d'y réfléchir. Et pour couronner le tout, imaginez une réunion de prière intense, solennelle, où l'on intercède tous ensemble pour une cause dramatique, jusque tard dans la nuit, et qu'il faille aller réveiller le pasteur pour prononcer la parole, la prière finale. J'en connais qui se sont fait remercier pour moins que ça. Hein. Vous souriez, mais c'est exactement ce que Jésus a fait dans cette série de rencontres et d'entretiens. On nous dit qu'être chrétien, c'est imiter Jésus-Christ. Mais là, c'est vraiment fort de café. Hein. Ces récits, en réalité, nous alertent sur les contrefaçons de la foi. Sur ce qui a l'apparence de la foi, de l'engagement, de la piété, et qui peut n'avoir en réalité aucun rapport avec tout cela. Et ce que ces paroles de Jésus affirment, c'est que la foi, telle que lui la conçoit, a la puissance d'un café à réveiller les morts. Elle a la puissance de nous piquer à vif, de nous garder éveillés et lucides dans les moments les plus trompeurs, les plus faciles ou les plus inquiétants de notre existence. Elle a la puissance, cette parole, de nous garder vigilants et critiques vis-à-vis de ces certitudes indiscutables, de ces évidences anesthésiantes qui nous sécurisent beaucoup, qui nous empêchent de réfléchir et de croire comme le Christ voudrait que nous croyions. Alors on va reprendre ces quatre situations pour essayer d'en saisir les enjeux pour notre foi aujourd'hui. Alors d'abord, il y a cette foule que Jésus laisse en plan. Comment est-elle arrivée là, cette foule? Pourquoi? Elle pense peut-être que Jésus est l'envoyé de Dieu, le Messie annoncé par les Écritures. prophétie d'Ésaïe à l'appui. Hein. Et elle a raison, la foule. C'est une bonne foule, de bonnes personnes. Mais alors, pourquoi, si tout semble clair, alors que Jésus n'aurait qu'à leur dire « Je suis bien le Messie que vous attendez, suivez-moi et vous serez sauvés. » Pourquoi abandonne-t-il cette foule ? Ce n'est pas une question facile. On a vu ailleurs Jésus qui était ému par les foules. Il les comparait à des brebis qui n'ont pas de berger. Mais il sait aussi s'en méfier des foules. Il sait que cette foule bien disposée, à son égard, peut d'un instant à l'autre désirer, par exemple, le faire au roi, un roi politique. Et si elle le déçoit, elle peut à tout moment demander sa mort. Et Jésus a besoin de prendre de la distance. Désire-t-il se retirer dans la solitude, là-bas, sur l'autre rive, on ne sait pas où c'est, pour prier son Père, pour se retrouver lui-même, comme certains vont marcher en montagne, faire un peu silence. Ou bien part-il sur l'autre rive pour s'ouvrir à d'autres entretiens, à des entretiens individuels, à des dialogues, loin des bains de foule. Et c'est ce qui va se produire. Il quitte la foule pour le un à un, pour la relation interpersonnelle. Et finalement, je me demande s'il n'est pas véritablement là le lieu décisif de nos existences, dans cette relation cœur à cœur avec Dieu. Voyons ces rencontres. La première a lieu avec un scribe. Vous le savez, ce sont des spécialistes des Écritures, de la Bible, des docteurs. Ce scribe dit à Jésus quelque chose d'incroyable. Professeur, je te suivrai partout où tu iras. Habituellement, les spécialistes demandent à être suivis, pas à suivre. Ils parlent, écoutent pas beaucoup. Ils enseignent, ils ne questionnent pas. Et ce professeur adopte un langage d'humilité. Il semble bien disposé. Et sa question ne contient aucun piège. Et pourquoi Jésus le prend-il à revers ? Sans doute parce que notre professeur, notre scribe, n'a pas la moindre idée de ce que sa marche à la suite du grand professeur implique et signifie. Et cela, précisément, parce que Jésus n'est pas un professeur. Mais il est le Fils de l'homme. Il est un Ben Adam en hébreu, un homme qui marche parmi les autres, pas au-dessus des autres, dans les hautes sphères du savoir ou de la spiritualité. Il est le Ben Adam, selon le cœur de Dieu, l'homme qui embrasse le projet de Dieu et va vivre cette humanité jusqu'au bout, dans toute sa plénitude, tel qu'aucun homme n'était jamais parvenu à la vivre, cette humanité. Dans le renoncement paisible à la puissance, ça vous est facile à vous, ça ? Ben moi non, ça m'est pas facile. Dans l'accueil du misérable, ça vous est naturel ? Dans le don de soi ? Pas facile. Ce Fils de l'homme va, au gré des rencontres et des expériences de la vie, approfondir son humanité au point d'en faire une merveille. Notre docteur est-il prêt à renoncer à ses montagnes de savoir, à ses trésors de sagesse, à tout ce qu'il sait sur Dieu, sur la prière, sur la Bible, sur la vie, sur la mort, pour aller avec Christ sans autre but que de rencontrer l'humanité et déposer dans le cœur de cette humanité la vie de Dieu, la guérison intérieure, la joie d'être libre de tout. Sommes-nous prêts à l'abandon de tout ce que nous avons, ce que nous savons, ce que nous construisons, ce que nous empilons depuis tant d'années, tous ces nids, ces tanières, pour faire l'expérience de la nudité, de l'inconfort, oui, mais plus encore de la dépendance. Suivre Jésus, c'est prendre le risque d'aller sur ce chemin-là. Il est probable que ce scribe n'en avait aucune conscience. La rencontre suivante nous rejoint alors très naturellement. Si nous ne sommes pas tous des théologiens, nous avons tous perdu un être cher. Ou organisé ou participé à des obsèques. Mais si le sujet nous parle, la parole de Jésus nous heurte. Laisse les morts enterrer leurs morts. Elle est raide, elle est fort de café, cette parole. Elle est impossible pour le dire, tout simplement. Jésus nous décrit une situation, quand on la regarde un peu littéralement, une situation qui est impossible. Un cadavre ne peut pas creuser un trou pour y enterrer un autre cadavre. Il faut donc chercher un sens spirituel à cette parole. On voit que le disciple est partagé, déchiré entre deux fidélités. La première est spirituelle, suivre Jésus, sa personne, son enseignement, la vie nouvelle à laquelle il appelle. Et la seconde fidélité est simplement humaine. L'homme ne peut abandonner son histoire, sa lignée, sa famille, puis sa nature humaine. Il y a la vie promise par Jésus, oui, mais il y a la vraie vie, avec ses réalités, ses obligations. Il y a le culte du dimanche où nos regards s'élèvent vers la vie nouvelle offerte par le Christ, et puis il y a la rentrée, le lundi matin. Il faut bien travailler, manger, payer des impôts, éduquer nos enfants, voter. La liste est infinie. Personne n'échappe à ce conflit intérieur entre ces deux impératifs, ces deux dimensions de la vie. Alors pourquoi Jésus rudoie-t-il encore ce disciple qui est plein de bonnes intentions ? Il aurait quand même dû lui exprimer ses condoléances, non ? Et pourquoi pas même l'accompagner aux obsèques de son père ? Cela aurait été sympa de la part de Jésus, sans doute, mais d'aucune utilité pour ce disciple. Parce que si cet homme pense que son père est dans ce corps sans vie, alors en effet, la relation entre cet homme et son père est morte. Il ne s'agit pas, évidemment, d'abandonner la dépouille paternelle au chacal et au charognard. Non, Jésus lui dit simplement que ce corps n'est plus son père. Son père est ailleurs, vivant. Vivant dans sa mémoire, peut-être pas toujours pour le meilleur d'ailleurs, vivant dans son cœur et surtout dans la présence du Dieu de la vie, mais pas vivant dans le cimetière. Vous savez, les protestants sont connus pour négliger leur mort, hein. Les cimetières protestants, c'est une horreur. Il n'y a que des mauvaises herbes qui poussent partout. Enfin, quand il y avait encore des cimetières protestants, parce qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Pourquoi ? Je les comprends parce que, comme le dit Jésus ici, les cimetières sont vides. La vie est en Christ. Les morts sont en Christ. Il y a peut-être aussi une autre explication à cette brusquerie de Jésus. Peut-être n'apprécie-t-il pas qu'on lui demande son autorisation. Permets-moi, Seigneur. Pour qui prend-il Jésus ? Pour celui qui décide à la place des gens ? Qui décide de ce que doivent faire ses disciples ? Prend-il Jésus pour un gourou tout-puissant sur ses adeptes ? Quelle conception de Dieu avons-nous, frères et sœurs ? Un Dieu qui décide de tout pour nous ou un Dieu qui nous libère de tout ? De tous les totalitarismes, de tous les esclavages. Un Dieu qui fait tomber du ciel chaque matin ses quatre volontés ? N'est-il pas au contraire celui qui nous fait confiance, qui nous envoie dans notre vie prendre des décisions, celles qui nous semblent les meilleures, les plus justes ? Il y a une autre parole de Jésus d'ailleurs, dans l'évangile de Luc cette fois, qui va dans ce sens, elle dit, Jésus dit, pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste ? Pourquoi perdez-vous votre temps à me dire, Seigneur, permets-moi, autrement dit. La vie chrétienne n'est pas un chemin large et tranquille, où il suffirait de suivre en demandant au Seigneur des autorisations. Elle est un combat, plein de tensions, de questions, de prières, un chemin d'inconfort, où les décisions ne sont pas faciles à prendre et où notre discernement chrétien doit s'exercer, quelquefois dans la douleur et au risque de se tromper, mais en ne comptant que sur la grâce de Dieu. Et on arrive au quatrième épisode. C'est celui de la tempête apaisée et de la petite sieste de Jésus. J'ai l'intuition que cette scène nous parle de façon symbolique de l'Église dans sa relation avec le Christ. La barque représenterait le lieu communautaire où l'on se serre les coudes. L'Église en prière, dans l'épreuve. L'Église qui se voit couler dans les difficultés du présent. Seigneur, au secours, nous périssons. Oui, nous intercédons, nous implorons. C'est légitime. Et pendant ce temps, Jésus dort. Notre agitation, et non pas la tempête, va finir par le réveiller. Et il va répondre que nous n'avons aucune raison de nous en faire. Ça fait toujours du bien d'entendre ça. Hein ? Dieu ne nous abandonnera jamais, même dans les pires situations. Mais j'entends dans cette remarque de Jésus un brin chambreur, un rien moqueur, mais aussi de l'affection. J'entends qu'il nous traite de petite foi. Vous êtes des petites fois, les amis. Nous sommes des petites fois. Il y a quelques villes comme ça, comme Sainte-Foy-la-Grande, hein, qui, pas très loin d'ici, qui se la raconte un peu, mais ici, dans cette barque, il n'y a que des gens de petites fois. Et ça, c'est encore une parole à réveiller un mort. Un café serré comme Jésus en a le secret. Mais en nous traitant de petits croyants, il nous reconnaît quand même un peu de foi. Sinon, il aurait dit, vous êtes des incroyants. Petite foi, c'est quand même un peu de foi. Et vous savez ce qu'on peut faire avec un peu de foi ? Avec une foi grosse comme un grain de moutarde ? Oui, les sycomores et les montagnes en tremblent déjà. Alors, j'espère simplement que ce café serré, en ce dimanche matin, nous empêchera de dormir. Oui, qui nous empêchera, qui nous tiendra éveillés pour méditer toutes ces merveilles que nous entendons ce matin, que nous sommes appelés à vivre ensemble tout au long de cette nouvelle année d'Église et chacun d'entre nous dans sa vie chrétienne personnelle. Amen.